C'est de Pandore qu'est sortie la race, l'engeance maudite des femmes, terrible fléau installé au milieu des hommes. Hésiode.
Ans d'histoire. Si, il y a 24 siècles, Platon reconnaissait déjà que les femmes représentaient la moitié de l'humanité, ses contemporains les considéraient malgré tout comme des êtres inférieurs, tout juste bonnes, à assurer la reproduction d'une société dans laquelle elles n'avaient droit qu'à un strapontin. Certains rêvaient même d'un monde sans femmes. Si tous les mortels pouvaient procréer sans qu'il y eût des femmes, disait Euripide, tous les ennuis nous seraient épargnés. Très misogyne, la littérature grecque est pourtant peuplée de femmes qui sont devenues des archétypes. Il y avait Hélène, la femme adultère, Sappho, l'intellectuelle qui préférait les femmes aux hommes, Antigone, la rebelle, Aspasie, la courtisane, et surtout la fidèle Pénélope. La seule peut-être pour laquelle les Grecs avaient de l'indulgence, parce qu'elle avait su attendre son mari, malgré des années d'absence.
Athéna, je te remercie. Divine ou divine déesse, amie de la fidélité terrestre, toi qui as soutenu mon attente et protégé notre maison, sois remerciée de son retour.
Pénélope.
Ulysse.
Mon absence a été bien longue, pourras-tu me la pardonner?
Tu es de retour, enfin pour toujours. Tu es de retour.
Claude Mossé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste de l'Antiquité grecque et un des auteurs d'un livre collectif publié aux éditions des Belles Lettres, La Grèce au féminin. Alors c'est la biographie de 8 femmes qui ont marqué l'histoire de la Grèce. Mais alors il n'y a pas la plus célèbre des femmes grecques, Pénélope. Pourquoi?
Eh bien, je vais reprendre même votre formule de femmes qui ont marqué l'histoire de la Grèce. Précisément, c'est le contraire. Je veux dire que ce sont des biographies, si on met à part peut-être Aspasie et Sappho, de femmes qui, pour la plupart, sont justement des inconnues et non pas des femmes importantes. De la Grèce ancienne, on connaît surtout les héroïnes, celles qui ont été à la fois chantées par Homère, Hélène, Pénélope, Andromaque, celles qui ont été ensuite reprises par les tragiques athéniens au 5e siècle. Donc, ces femmes-là, on les connaît. Mais justement, l'objectif de ce livre, dont l'initiative revient à Nicole Laureau, qui malheureusement nous a quittés depuis une dizaine de jours, elle est morte il y a une dizaine de jours, l'initiative de ce livre, c'était au contraire d'essayer de voir ce qu'on peut apprendre en interrogeant la vie de femmes ou en essayant de reconstituer la vie de femmes qui ne sont pas justement des héroïnes.
Oui, mais leur vie, on les connaît, Claude Mossé, par des historiens. Hein, l'histoire de la Grèce a été faite par des hommes, pour des hommes. Les femmes, d'ailleurs, y ont peu de place, sauf peut-être justement dans la mythologie. Est-ce qu'on peut se fier à ce qu'ils écrivent pour savoir quel était le statut de la femme dans l'Antiquité grecque?
C'est effectivement le gros problème devant lequel se trouvent placés les historiens, et surtout les historiennes, car pratiquement ce sont des historiennes qui ont repris ou qui ont pris le flambeau de l'histoire des femmes, c'est que si on met à part effectivement les poésies de Sappho qui sont parvenues jusqu'à nous, nous ne connaissons ces femmes, qu'il s'agisse d'ailleurs des héroïnes de l'épopée auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, que de celles qui figurent dans ce recueil publié sous la direction de Nicole Laureau. Ce qui justement pose problème, c'est que nous ne les connaissons qu'à travers le discours des hommes, pas seulement des historiens d'ailleurs, parce que les historiens grecs ne parlaient pas plus des femmes, ou très peu, incidemment, que ne le faisaient les historiens jusqu'à une époque assez récente, car il faut bien dire que jusqu'à ce que vraiment le mouvement des femmes place les femmes et l'histoire des femmes à l'égalité ou à égalité avec l'histoire des hommes, elles avaient aucune place dans l'histoire, ou presque aucune place.
Alors il y a un autre problème, Claude Mosset, c'est que d'abord la Grèce, c'est un ensemble de plusieurs cités dans lesquelles les femmes devaient avoir des statuts assez différents. Cela dit, quand on vous lit, quand on lit aussi un livre que vous avez publié il y a quelques années, La femme dans l'Antiquité grecque ou dans la Grèce antique, là on se rend compte qu'au fond, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque de cette longue histoire de l'Antiquité grecque qui a duré environ 8 siècles, eh bien, la femme a toujours été considérée comme une mineure, comme un être inférieur, hein, réservé au gynécée, hein, au lieu où se trouvaient les femmes.
Alors, je dirais que il faut tout de même un peu distinguer dans ma réponse, je vais essayer de le faire en peu de mots. C'est vrai que l'histoire grecque s'étend, ou ce que nous appelons l'histoire grecque s'étend sur un certain nombre de siècles. Ce n'est pas absolument ou tout à fait exact que le statut de la femme a toujours été identique, en ce sens que, justement, les reines de l'épopée, par exemple, parce que ce sont des reines, comme les reines de l'époque hellénistique après Alexandre, ne sont pas tout à fait comparables à ce que pouvait être, par exemple, la femme dans une cité comme Athènes, et singulièrement dans cette cité qui avait inventé la démocratie.
Hein, ce qui est tout de même très
important.
Oui.
Sauf pour les femmes, bien sûr. Non, mais ce qui avait inventé la démocratie, c'est important parce que ça veut dire que la politique, en fait, la politique et la guerre étaient les deux activités essentielles de la cité grecque, et les hommes, ou bien faisaient la guerre, ou bien
faisait la politique, mais les femmes ne faisaient ni l'un ni l'autre.
Absolument.
Hein, c'est ça. Alors, le rôle principal de la femme, il faut bien le dire, dans l'Antiquité grecque, c'était d'avoir des enfants, et c'était de s'occuper de la maison. C'était d'abord une maîtresse de maison, de ce qu'on appelle l'oikos, je crois, en grec, hein, la gestion de l'oikos, c'était le rôle des femmes, ce qu'on appelle l'oikonomia. J'ai appris d'ailleurs en vous lisant que c'est de là que vient le mot économie.
Oui, à vrai dire, c'est effectivement de là que vient le mot économie, et en particulier, on le doit à un ouvrage que nous traduisons, que nous appelons l'économique, de Xénophon, qui était un historien athénien du 4e siècle avant notre ère, et qui décrit précisément la gestion d'un domaine présenté comme étant un domaine idéal. Car je précise bien, oikos, c'est un terme qui est plus vaste que ce que nous entendons par maison ou par famille. Ça implique qu'il y a effectivement un maître de maison, qu'il y a son épouse, qu'il y a ses enfants, qu'il y a les esclaves, les serviteurs, etc. Donc c'est un ensemble. Et c'est un ensemble qui a sa propre... Alors, dans le cas de l'économique de Xénophon, précisément, il s'agit de la gestion d'un domaine qui est essentiellement un grand domaine foncier, et donc le mot oikonomia signifie la façon de gérer cette oikos, c'est-à-dire ce domaine.
Alors, dans ce domaine, qu'est-ce qu'elle fait, la femme?
Dans ce domaine, la femme...
Et c'est elle tisse comme Pénélope?
Oui, elle tisse comme Pénélope, mais dans le cas, par exemple, de l'économique de Xénophon, et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une différence entre la cité du 4e siècle et puis cette cité lointaine des poèmes homériques, c'est que elle gère également la maison, c'est-à-dire elle s'occupe de donner du travail aux servantes, elle s'occupe de préparer les vêtements pour les serviteurs, etc. Elle s'occupe de ranger les ressources, de veiller aux ressources pour tout l'hiver, pour nourrir toute la maisonnée, etc. Donc elle a un rôle véritablement de gestionnaire, mais de gestionnaire de la maison. Cela dit, le texte de Xénophon est un texte qui se veut modèle, bien entendu. Et dans la réalité, effectivement, un homme devait avoir une épouse parce que c'est à elle qu'il confiait le soin de, non pas d'élever les enfants, les enfants en très jeune âge, parce que les fils au moins, quand ils avaient atteint un certain âge, on les confiait à un pédagogue, c'était plus la femme qui s'en occupait, mais de veiller à l'éducation des enfants, des jeunes enfants, de veiller à la bonne marche de la maison, de filer, en effet, ou tisser des étoffes avec la servante, etc., avec les servantes autour d'elle.
La seule chose qui compte, c'est cette toile que je tisse tout le jour et que je défais aux lueurs des torches.
J'étais le compagnon d'Ulysse. Et pendant nos longues heures de veille, dans la tente des combats, c'est de toi qu'il parlait toujours. Il te voyait attendre son retour. Dans sa maison filant de la laine, il revoyait votre chambre et ce grand lit où tu dormais seul.
Je suis comme une prisonnière, enchaînée à sa promesse, et il n'y a personne qui puisse m'en délivrer.
Voici
France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, les femmes dans la Grèce antique.
Et vous entendiez un chant inspiré de la Grèce antique, justement, par l'ensemble d'Emonia Nymphe, qui l'a composé avec des instruments de musique de l'époque de Périclès, plusieurs siècles donc après l'histoire d'Ulysse et de Pénélope, qui est une histoire d'amour, Claude Mossé. Est-ce que l'amour avait sa place dans un couple grec entre un homme et une femme? C'était plutôt quelque chose de convenu, le mariage.
Alors, le mariage, effectivement, c'était absolument une des bases de l'organisation de la société dans la Grèce ancienne. Bien entendu, nous ne sommes informés que pour, disons, les conditions du mariage dans une cité comme Athènes, par exemple, singulièrement au IVe siècle avant notre ère, parce qu'on a des plaidoyers qui nous renseignent sur la façon dont les choses se passaient. Alors, bien entendu, il ne s'agissait jamais d'un choix, enfin, du moins, le plus souvent, il ne s'agissait pas d'un choix entre les deux époux, mais c'était le père du jeune homme qui choisissait la femme de son fils.
Ni l'État, dites-vous, ni la religion n'intervenait. En fait, c'était un contrat, ce qu'on appelait lingué, je crois.
Lingué, oui, c'est ça. C'était une sorte de contrat, mais oral, de contrat oral, entre un homme et le père d'une jeune fille, pour la prendre comme épouse pour son fils. Alors, en général, le père de la jeune fille remettait une dot qui représentait en quelque sorte, disons, la part d'héritage à laquelle la jeune fille avait droit. Et nous avons des informations concernant ces dots. Par exemple, au IVe siècle, on sait que cette dot représentait à peu près le dixième du patrimoine pour des familles aisées ou riches. Donc, la fille avait évidemment beaucoup moins de sa part d'héritage que le fils.
Il paraît même, dites-vous, que le divorce était quelque chose de tout à fait admis dans la société
grecque.
Oui,
c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où le mariage était une sorte d'accord, alors évidemment accompagné tout de même de cérémonies, il y avait quand même une cérémonie, l'entrée de la jeune épouse dans la maison de son époux, etc., tout ça ayant quand même un caractère solennel, le mariage pouvait être interrompu parce que ça n'avait pas ce côté sacré que peut avoir un mariage dans une société comme notre société.
La femme pouvait le demander.
Même la femme pouvait le demander, on a un seul exemple, oui. c'est la femme d'Alcibiade qui trouvait qu'elle en avait vraiment un peu assez de cet homme qui ne s'intéressait pas beaucoup à elle. Le problème, c'était que quand il y avait divorce, il fallait à ce moment-là restituer la dot. C'est-à-dire, c'était une des raisons pour lesquelles le mariage pouvait tenir, parce que souvent, un homme hésitait à répudier sa femme pour en restituer la dot. Mais il était, en revanche, tout prêt à le faire si, par exemple, il se trouvait, par les hasards du système de succession, pouvoir hériter, revendiquer une jeune fille seule héritière d'un bien. Parce que la fille ne pouvait pas hériter du bien paternel, mais le bien paternel serait transmis à ses enfants à condition qu'elle épouse le parent le plus proche dans la lignée paternelle. Et ça pouvait être aussi bien son oncle.
Alors Claude Mossé, les statuts étaient très différents. Par exemple, vous citez aussi un autre exemple qui est celui de la femme spartiate. Elle, c'est tout à fait différent. Elle se promène, elle a droit d'aller à l'extérieur, elle se mêle même aux hommes dans des jeux, elle participe à des jeux. Vous citez Xénophon qui disait « On instituait des courses et des épreuves de force entre les femmes comme entre les hommes, persuadé que si les deux sexes étaient vigoureux, ils auraient des rejetons plus robustes. » Alors c'était la raison pour laquelle les femmes avaient le droit de se mêler aux hommes dans les jeux. Elles étaient même nues devant tout le monde.
Mêler aux hommes, non. En fait, c'était les yeux des hommes. Oui. Les jeux étaient séparés. Mais c'est vrai que la tradition voulait que les femmes spartiates jouissaient d'une plus grande indépendance.
Il y a un exemple, je crois, dans votre livre, qui est Gorgo, dans le livre La Grèce au féminin.
Oui, alors, dans l'exemple La Grèce au féminin, mais le cas de Gorgo est un peu particulier, parce que Gorgo est une reine, et la femme, la fille d'un roi, et l'épouse d'un roi spartiate. Donc c'est déjà un cas un peu particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans une comédie d'Aristophane, Lysistrata, où les femmes d'Athènes appellent les femmes du reste de la Grèce à faire la grève de l'amour, carrément, pour contraindre leurs époux à conclure la paix, arrive la Spartiate et toutes les femmes, en particulier les Athéniennes, d'admirer ses cuisses vigoureuses parce qu'effectivement, elle fait de la gymnastique alors que la femme d'Athènes reste toujours soigneusement, non pas toujours à l'intérieur de sa maison, car les femmes sortaient davantage qu'on le dit, peut-être, mais en tout cas voilées hein, et non pas montrant leurs cuisses comme les femmes Spartiates dans les jeux gymniques.
Alors, il y a une femme célèbre à Sparte, hein, c'est elle-même qui a provoqué la guerre de Troie, la femme de Ménélas, devenue l'archétype de la femme infidèle quand elle est partie avec Paris, en provoquant donc la guerre de Troie.
Pour les autres, comme pour nous-mêmes, nous sommes un mythe.
Aussi longtemps qu'on unira nos noms. Paris, sans Hélène, n'est rien. Et Hélène, sans Paris, n'est qu'une femme adultère.
Quand des milliers d'hommes sont immolés pour une femme, sa gloire durera toute l'éternité.
Après tant de vies perdues et tant de vaines palabres, les Achéens ne nous demandent que de leur rendre Hélène. Les dommages, l'honneur offensé, les morts, tout sera effacé.
On ne me convaincra jamais que le bonheur des Troyens doive être sacrifié à la gloire d'un adultère.
Et pourtant, c'est ce qui va se passer avec la guerre de Troie, Claude Mossé, provoquée donc par Hélène, la femme adultère. On ne plaisantait pas avec l'adultère hein, dans l'Antiquité grecque.
Alors là, encore une fois, nous allons passer, si vous voulez, de l'épopée à la réalité, enfin à la réalité entre guillemets, mais disons à ce qu'on peut deviner de la réalité d'une cité grecque de l'époque classique, où effectivement il existait une législation contre l'adultère. Législation qui permettait par exemple à un homme prenant sa femme en flagrant délit d'adultère de mettre à mort le coupable,
l'amant.
C'est-à-dire celui avec lequel elle avait l'amant.
Le coupable, c'est pas forcément seulement l'homme. Hein.
Ah, c'était lui qui était considéré comme le coupable. Et la femme aussi, bien entendu. Ça se traduisait par le fait qu'elle était exclue. En particulier, elle n'avait plus le droit de participer à la vie religieuse, qui était effectivement le domaine par excellence où les femmes pouvaient acquérir une certaine importance et une certaine indépendance sur le plan religieux. Parce qu'il y avait des prêtresses, parce que dans l'histoire de Néhéra qui figure dans ce livre sur la Grèce au féminin, justement, la fille de Néhéra, épouse de l'Archonte roi pendant un an, eh bien, pendant un an, enfin, il avait été désigné par le sort pour être Archonte roi pendant un an, et donc pendant un an, elle était la reine, et elle participait à des cérémonies religieuses. Donc, effectivement, la vie religieuse était très importante pour les femmes, et être exclue de toutes ces, de cette vie religieuse, de cette participation au culte, c'était véritablement quelque chose de très grave pour une femme.
Alors qu'on était très tolérant pour les hommes. En revanche, l'adultère était, ils avaient des courtisanes, ils avaient même des amis, hein, bon, des petits amis. Il y avait beaucoup d'homosexualité, ce qu'on appelle l'amour grec en Grèce, chez les femmes aussi. Hein, Sappho, qui est mentionné dans votre livre, était connu justement pour son homosexualité.
Oui, mais alors là, je dirais qu'il ne s'agit pas d'adultère quand un homme a une relation avec un jeune garçon. Il s'agit d'une tradition aristocratique qui fait que la pédérastie est effectivement une sorte de rite initiatique permettre à un jeune homme d'accéder à l'âge d'homme. Après quoi, il se marie, il a des enfants, etc. Bon, c'est pas un choix de sexualité, hein, c'est autre chose, cette pédérastie. Mais c'est effectivement une pratique régulière. Mais l'adultère, en l'occurrence, ce n'est pas l'adultère avec un jeune garçon. L'adultère, c'est avec une autre femme. Hein. Et c'est le danger, précisément, de faire entrer dans la maison des enfants qui ne soient pas légitime, car c'est ça le gros problème. Cela dit, ça a certainement dû se passer assez souvent, car il n'y avait pas d'état civil, et que quand un homme présentait son fils nouveau-né à sa fratrie, c'est-à-dire à ce groupe qui rassemblait théoriquement les descendants d'un même ancêtre, lorsqu'il présentait cet enfant à sa fratrie, c'était peut-être l'enfant de sa femme légitime, ça pouvait être aussi l'enfant d'une concubine, car il y avait effectivement la possibilité pour un homme d'avoir dans sa maison, à côté de son épouse légitime, une palaquée, c'est-à-dire une concubine. Ce qui est tout à fait différent, d'ailleurs, de la courtisane, car la courtisane était une femme indépendante.
C'est ça, la courtisane. Alors, ce qui est très curieux en vous lisant, c'est qu'elle est beaucoup plus libre, au fond, que la femme légitime, que la femme mariée. Elle assiste aux banquets, elle assiste même aux orgies. Hein, il y en a de célèbres. Il y avait Aspasie, qui était la maîtresse de Périclès, dont Périclès était tellement fou, d'ailleurs, qu'on l'accusait de se laisser guider, en quelque sorte, dans la vie politique d'Athènes, par Aspasie, qui lui conseillait. C'est assez extraordinaire. Et alors, au bas de l'échelle, il y avait, dites-vous, les prostituées, les pornoïs, hein, je suppose que c'est pornoïs, c'est de là que vient, je suppose, le mot pornographie, et qui étaient souvent essentiellement des esclaves. On parle très peu d'esclaves dans la littérature grecque, Claude Mossé.
Je voudrais, si vous permettez, je vais revenir.
On a peu de temps, c'est pour
ça.
Sur,
oui, je sais que nous avons peu de temps, mais tout de même, je veux pas trop présenter Aspasie comme une courtisane. Hein. C'est pas la même chose que simplement une. C'était une femme cultivée, intelligente, certainement, pour autant qu'on puisse le deviner, qui aimait discuter avec Socrate.
Ça n'était pas. Charmes, quand même.
Voilà. Mais non. Ah elle était l'épouse, elle vivait avec Périclès.
Ah oui, c'est vrai.
Simplement, elle était étrangère. Périclès avait justement répudié son épouse légitime pour vivre avec elle. Donc c'est un peu différent. Néhéra, celle dont je parle dans le livre, elle était peut-être davantage une courtisane, esclave effectivement à l'origine, mais esclave, disons, élevée par une ce qu'on pourrait appeler une tenancière, si vous voulez, de
Maquerelle,
oui, d'une maison. De haut niveau.
De tolérance.
Mais oui, de haut niveau. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que la pornaille, parce que les pornailles, en effet, c'était les pauvres filles, les pauvres esclaves. Alors vous me dites, on parle pas beaucoup des esclaves. Les esclaves femmes, on parle pas beaucoup des esclaves d'abord parce que si, on en parlait en fait pas mal, je veux dire, mais c'est effectivement les esclaves, c'est quelque chose qui nous étonne, nous, encore que ce sont des choses qui peuvent exister jusqu'à nos époques. Mais c'était, par exemple, dans la maison, c'était les servantes qui entouraient la maîtresse de maison.
La nourrice aussi.
C'était la nourrice, qui souvent pouvait être, au contraire, estimée par, et même affranchie par son ancien nourrisson, si j'ose dire. Donc, si, il y avait des esclaves, effectivement, il y avait beaucoup d'esclaves femmes dans la société grecque.
En tout cas, on va l'entendre, les Grecs ne se faisaient pas une très haute idée de ce que pouvait être la femme. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, la misogynie grecque remonte à loin. À entendre Hésiode, d'abord au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est d'une femme que viennent tous les malheurs des hommes. Pandore, cette belle femme à laquelle Zeus avait confié une boîte remplie de fléaux et de désastres, avec ordre express de ne pas l'ouvrir. Mais vous connaissez la curiosité de la femme, hein, un peu comme Ève. Pandore, ni une ni deux, a ouvert la boîte. Et c'est ainsi que depuis ce jour funeste, écrit Hésiode, des tristesses innombrables errent parmi les hommes. Et plus généralement, il écrit, c'est de Pandore qu'est sortie la race maudite des femmes. Alors une constante, hein, chez les penseurs grecs, la femme est plus proche de l'animal que de l'humain. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, un certain Sémonide d'Amorgos écrit un poème hallucinant sur les femmes. Alors selon lui, elles se divisent en quelques catégories principales. La femme chienne d'abord. Il n'y a rien à faire, dit-il, pour l'empêcher d'aboyer. Alors, deuxième catégorie, la femme truie, hirsute, qui sent très mauvais, car, dit-il, elle ne prend jamais de bain. La femme cavale à longue crinière, lubrique qui prend au piège l'homme. Enfin, tout de même, une rescapée un peu plus respectable, la femme abeille. Bienheureux l'homme qui la reçoit, dit-il, car seule elle échappe au blâme. Sa fortune prospère et grandit avec elle, et elle vieillit aux côtés de son mari, après lui avoir donné une belle et louable descendance. Mais évidemment, l'abeille est rare, et Sémonide d'Amorgos conclut dans un soupir, les femmes, c'est là le plus grand mal que Zeus a créé. Avec le philosophe Aristote, la misogynie se poursuit, sous le couvert d'arguments un peu pseudo-scientifiques. Alors, selon lui, l'infériorité de la femme est naturelle. La nature, dit-il, a créé un sexe fort et un sexe faible. Le fort apporte les choses du dehors, et l'autre, le faible assure la sécurité de celle du dedans. L'un est capable pour la vie sédentaire et manque de force pour la vie au dehors. L'autre, moins fait pour la tranquillité, s'épanouit dans le mouvement. Alors pour Aristote, donc, l'homme est la norme. Le mâle, dit-il, est pour les êtres qui naissent ce qu'il y a de meilleur. Tandis que la naissance d'une femme est, dit-il, un écart de la nature. La femme, écrit Aristote, est un mâle mutilé, estropié. Une seule chose lui manque, le principe de l'âme. Eh oui, voilà, on a dit. Mais pourquoi tant de haine, me direz-vous? La femme ferait-elle peur aux Grecs? En tout cas, elle a l'air de faire très peur à Platon. La femme, pour lui, est réduite à son appareil reproducteur, effrayant, un utérus géant qui n'est même pas un simple organe. En effet, déclare Platon, ce qu'on nomme matrice ou utérus est en elle comme un animal s'agitant en tous sens dans son corps.
C'est extraordinaire, Claude Mossé, la misogynie des auteurs grecs. Je ne sais pas si le mot est un anachronisme, mais c'est quand même inouï, ça, Sémonide d'Amorgos qui parle de femmes comme d'animaux.
Non, c'est pas du tout un anachronisme, mais effectivement, la femme est du côté, disons, de l'animalité, du côté de la nature, du côté du sauvage, à certains égards. Seulement, bien entendu, on peut toujours faire un florilège de textes de ce genre. On pourrait en citer d'autres, et surtout, tenir compte, en quelque sorte, de ce qu'on peut deviner à travers les textes qui nous ont parvenus, non pas justement des textes de philosophes ou des textes de poètes, mais d'autres. Et puis, par exemple, les héroïnes de l'épopée homérique, justement, Andromaque ou Pénélope, mais aussi d'autres personnages féminins, et en particulier Socrate, le Socrate de Platon, qui accorde de l'importance à un certain nombre de femmes, et Platon lui-même, qui, lorsqu'il construit une cité idéale, que ce soit la cité de la République ou la cité des lois, envisage de non seulement considérer les femmes comme effectivement la moitié de l'humanité, mais d'autre part envisage même envisage la possibilité qu'il y ait des femmes philosophes, et dans ce recueil sur la Grèce au féminin, il y a justement une femme philosophe, de la possibilité aussi de leur confier des magistratures, des fonctions officielles. Donc il faut tout de même très nuancer, pas tout cela. Il y a des textes fortement misogynes, il y a aussi une réalité qui révèle que la femme, surtout la femme, la mère, la fille, etc., tenait une place dans la vie des citoyens grecs.
Et dans le théâtre, il y a de très beaux personnages, il y a quand même l'Antigone de Sophocle, il y a Clytemnestre de Ripide, il y a Médée, Andromaque, etc. Mais cela dit, quand même, est-ce qu'on ne peut pas dire d'une certaine manière, il nous resterait peu de temps, Claude Mossé, que le statut des femmes ne va pas beaucoup changer dans l'Antiquité romaine et même au Moyen-Âge? Est-ce que la misogynie n'est pas au fond un héritage de l'Antiquité grecque? On retient surtout la démocratie, mais il y avait aussi un aspect quand même, c'était le statut des femmes. En deux mots, en deux secondes, parce qu'il nous reste quelques secondes après.
Je vous réponds en deux mots que le statut des femmes est resté presque le même pendant de longues périodes historiques, et que pour prendre un seul exemple, avant 1945, en France, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Par conséquent, vous voyez qu'il s'agit d'une infériorité, de même qu'elles n'avaient pas le droit, par exemple, de signer des contrats ou des choses de ce genre. Donc, je ne crois pas qu'il faut attribuer aux Grecs l'origine de la misogynie. Il y avait des misogynes en Grèce, certainement. Il y en a eu dans d'autres époques et dans d'autres sociétés. Je ne crois pas que ce soit un héritage de la Grèce, en tout cas.
Merci, Claude Mossé. Je rappelle que vous avez participé à l'ouvrage collectif La Grèce au féminin, donc dirigé par Nicole Leroux, qui nous a quittés il y a quelques jours. Un livre dans lequel vous consacrez un chapitre à la courtisane Néera, et un livre qui vient de paraître aux Belles Lettres. Vous êtes également l'auteur de La femme dans la Grèce antique, publié chez Complexe. Vous avez pu entendre des extraits des films Ulysse de Mario Camerini, disponible en cassette chez Vidéo Virgin, et puis La guerre de Troie de Giorgio Ferroni. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com.